La police, elle aime trop ce quartier. Ils viennent trop ici.
Je vous assure, je suis contente de les voir, moi.
Parfois, ils veulent contrôler les gens, ils n'ont rien à voir de ce qu'ils cherchent. Ça casse les couilles.
C'est pas très convivial, ils parlent très mal.
Il y a des gens qui sont là avec des armes de poing, qui sont là avec beaucoup de stupéfiants, beaucoup d'argent. Il est temps qu'on intervienne.
Ils habitent le Peterbos. Depuis quelques mois, ils ont appris à vivre avec la police, se font bousculer, contrôler, sont parfois contents de leur présence, rassurante, dans ce quartier isolé, enclavé. Peu avant l'hiver, les gyrophares et les sirènes ont réveillé les habitants. Après une enquête de longue haleine, réalisée par les inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Midi, un premier coup de filet est organisé au matin du 24 novembre dernier. Plusieurs zones de police participent, le fédéral aussi. Les perquisitions ont lieu à Anderlecht et dans 5 autres communes. De l'argent, du cannabis, de la cocaïne sont saisis. 3 semaines plus tard, nouvelle opération le 14 décembre, une réplique de la première. 17 personnes sont depuis en détention préventive, en attente d'être jugées. Le trafic de stupéfiants au Peterbos est important. Une structure organiserait le marché avec des guetteurs, des vendeurs, des fournisseurs et leurs responsables. Des liens sont même évoqués par les enquêteurs. Des Français venus des cités marseillaises ont été aperçus au Peterbos. Je m'appelle Tom Denis, je suis journaliste à la RTBF. Vous écoutez Le Peterbos, un paradis artificiel, un podcast immersif dans les allées d'un quartier de Bruxelles assiégé. Pour m'accompagner, Jérémy Van Belleghem est à la création sonore. Deuxième épisode, jusque dans les cages d'escalier du Peterbos. Je reviens au Peterbos, sûr de moi, les rencontres que j'ai faites ici me rassurent. Les gens sont accueillants, bienveillants, parlent volontiers de leur vie et du quartier. Et ce matin, sur la place du village, une musique vient donner une convivialité supplémentaire aux rencontres. En bas du bloc 9, deux jeunes, grands et minces, masqués et cagoulés, parlent du nouveau téléphone que l'un d'entre eux veut acheter. Je vois seulement leurs yeux, des yeux d'enfant. Puis une personne se présente à eux. L'échange dure 6 secondes, un billet contre un sachet, rapide, sans discours. L'opération se reproduit environ toutes les 3 à 4 minutes. Après un moment, je décide d'aller leur parler.
Qu'est-ce que vous pensez du Peterbos ?
C'est un quartier normal. On est unis ici. Je sais pas, c'est un quartier comme les autres. C'est juste que la police, elle aime trop ce quartier. Ils viennent trop ici. Et voilà.
Peterbos, c'est un quartier entre parenthèses cité, parce qu'il y a beaucoup de blocs. Pas comme dans d'autres.
Dans d'autres quartiers.
Non, moi, je viens pas d'ici.
Donc,
Peterbos, c'est beau, c'est propre. Voilà, être gens comme ici, là, ils sont bien, voilà, comme dans tous les quartiers. Un peu de musique, ça fait du bien, parler avec tout le monde. Voilà.
Et vous faites quoi là en ce moment ?
On traîne comme dans tous les jeunes qui traînent. Nous on n'aime plus trop la police. Quand on était plus, on aimait bien la police, on a des lumières policiers, mais maintenant, aujourd'hui, on n'aime plus. C'est-à-dire que quand nous on les voit, on aime bien les nier, on aime bien les énerver, Parfois c'est chiant. Parfois quand ils viennent trop déranger, ça sert à rien. Parfois ils veulent contrôler des gens, ils n'ont rien à voir de ce qu'ils cherchent. Et ça dérange, ça casse les couilles. Désolé du terme.
Vous avez quel âge juste pour me...
Moi j'ai 16 ans.
16 ans ?
Ouais.
Et toi ?
Moi j'ai 15 ans.
Ok. Et toi t'habites le quartier, toi tu viens un peu plus loin, c'est ça ? Ouais, c'est...
Tout le monde se connaît, ouais, c'est vrai, c'est pas fou. J'ai remarqué ça. Tout le monde se connaît, tout le monde parle ensemble, il n'y a pas de dispute.
Et toi tu viens ici depuis combien de temps dans le quartier ?
Moi, ça fait environ combien de temps que je viens ? Depuis que j'ai connu 2-3 personnes ici. Je commence un petit peu à venir.
Je coupe le micro. Je leur demande s'ils vendent de la drogue. Ils ne nient pas, parlent des grands du quartier, du respect qu'il faut gagner. Eux sont les petits en bas des immeubles. Juste avant les opérations de police au Peterbos, j'ai eu l'occasion d'avoir le bourgmestre d'Anderlecht au téléphone, Fabrice Kums. À ce moment-là, je préparais déjà mon enquête sur le Peterbos et je lui ai demandé s'il avait peur de se promener dans le quartier. Il m'a répondu que non. En ce deuxième mardi de l'année, nous avons donc rendez-vous sur la place du village, bloc 9.
Comme dans beaucoup de cités de ce type-là, la difficulté peut-être c'est le fait qu'elles ne soient pas facilement traversables. Hein. Donc comme c'est un espace assez labyrinthique, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, c'est clair que ça donne un champ d'action assez facile pour les dealers. Et donc il y a un gros commerce de drogue qui s'est développé ici dans la cité. On vient de l'extérieur de la cité pour venir se fournir en toutes sortes de drogues. C'est ça qui a provoqué la réaction qu'on a menée avec la police.
Il m'explique que cette réaction est en deux temps, avec d'abord les opérations coup de poing du mois dernier, et maintenant une omniprésence de la police. Et justement, nous sommes coupés par les agissements de deux hommes. Ils courent dans la plaine de jeu, située un peu plus bas.
Ces deux personnes qu'on voit là courir dans la plaine de jeu, c'est quoi ?
Peut-être que ce sont encore des dealers.
Ou des policiers.
Comment ?
Ce sont des policiers.
Les deux personnes qu'on a vues là, oui, oui.
Ça c'est
oui.
Des policiers. La voiture va démarrer, il va partir. C'est bien des policiers. C'est aussi en civil que ça se passe.
Tout à fait. En fait, c'est un mix des deux. C'est à la fois une présence officielle en uniforme qui montre à la population qu'il y a une occupation, comme je disais, positive de l'espace public par la police, et aussi la volonté de continuer, évidemment, sans que ce soit des opérations d'une telle ampleur que les deux opérations du mois de décembre, de continuer, évidemment, à pourchasser les trafiquants.
Ça paraît un peu impressionnant, mais c'est devenu pour les habitants ces dernières semaines... Je dirais le quotidien.
L'un des agents se dirige vers nous. Il a reconnu le bourgmestre.
Bonjour, je peux vous poser une question ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je peux y répondre, je verrai bien. En soi, normalement, je ne peux pas faire de communiqué, mais une intervention de police dans la suite de ce qui s'est déroulé au préalable. Donc on essaie de garder une présence sur le terrain et une pression afin de pouvoir occuper les espaces et de laisser un peu libre pour les citoyens. Mais le reste après, je ne sais pas. Je peux pas, malheureusement pas vous dire les tenants et les aboutissants du reste du dossier.
Mais vous verrez le chef de corps, non ?
Effectivement, j'ai rendez-vous avec le chef de corps de la zone de police Bruxelles Midi. Je me rends au commissariat principal. Il est situé à 1300 mètres de la cité du Peterbos. Je dois passer par l'accueil. Il y a du monde. Ce commissariat semble fort sollicité. J'entre dans le bureau du chef de corps. Jürgen de Lancher est un homme d'une quarantaine d'années, souriant. Son bureau est spacieux, avec un coin salon, un bureau et une table de réunion. Nous nous installons à la table.
Avant ces deux grosses opérations, avant novembre, la police n'y allait pas dans ce quartier.
Il n'y allait pas beaucoup. Et c'est un peu bizarre, ces bandes qui étaient là, ils géraient la situation. Ce qui faisait qu'on avait très peu d'appels. Et ça fait que quand il n'y a pas d'appels, ben les gens n'y vont pas. Mais pour la mauvaise raison. Deuxièmement, on n'y allait pas parce qu'on savait qu'il y avait un gros dossier en cours. Donc nos gens ont enquêté pendant des mois sur les gros dealers. Et donc on ne pouvait pas déranger l'enquête judiciaire. Et maintenant on a dit, dès que cette enquête judiciaire est finie, à ce moment-là, on va reprendre le terrain avec nos services de police plutôt opérationnels, visibles sur le terrain. Et surtout notre proximité, parce que c'est ça que les habitants ont besoin.
Est-ce que vous pouvez commenter cette petite opération de ce matin ? Ça consistait en quoi, en fait, les contrôles et les interpellations tout à l'heure ?
Ce matin, il y avait de nouveau une opération où les gens étaient non visibles, c'est-à-dire qu'ils ne se baladaient pas en uniforme, mais où ils ont essayé de repérer des guetteurs ou des dealers. Malheureusement, ou de l'autre côté, positivement, on a de nouveau pu arrêter deux personnes qui étaient en possession de stupéfiants, d'argent, et c'est ça le but. On veut vraiment montrer que ce n'est pas la place pour les dealers. Nous, on veut rendre le quartier aux habitants.
J'apprends avec le chef de la police que les frontières n'existent pas pour les bandes criminelles. Dans le cas des trafiquants du Peterbos, une source proche de l'enquête me le confirmera plus tard, des liens auraient été tissés avec les quartiers nord de Marseille. Là où les narcotrafiquants proposent parfois de véritables plans de carrière aux jeunes. Je décide de prendre mon téléphone et de contacter un Français qui connaît bien Marseille et ses trafiquants. David Weinberger est chercheur. Ses travaux de recherche portent sur la criminalité transnationale et plus particulièrement sur l'analyse du trafic illicite de stupéfiants et sa géopolitique.
Vu la description de ce que vous voyez au quartier de Peterbos, on est sur ce qu'on considère, nous, en France, comme un four. C'est vraiment un lieu de vente qui s'organise, a priori, exactement de la même manière que ce qu'on peut voir dans certains quartiers en France.
Apparemment, il y aurait des liens entre... Marseille et le Peterbos. Est-ce que vous avez observé, vous, que les trafiquants traversent les frontières ?
Alors, nous, ce qu'on a observé d'une manière relativement récente, c'est que, autant auparavant, en fait, les dealers recrutaient dans leur bassin d'emploi, c'est-à-dire dans les cités mêmes, vraiment à proximité, Et puis s'est opérée en fait une forme de mobilité où les trafiquants ont commencé à recruter des petites mains en dehors des cités, dans un premier temps sur des bassins locaux, c'est-à-dire dans des quartiers adjacents de la même ville. Et puis désormais, on voit une évolution de cette mobilité qui est devenue régionale, avec par exemple des vendeurs de Marseille qui vont monter en région parisienne pour aller travailler, souvent de manière journalière, hein, rémunérée à la journée, dans des fours de région parisienne. Et aujourd'hui, cette affaire indiquerait que cette mobilité s'étend et dépasse les frontières.
Eldorado pour les chercheurs d'emploi du secteur, ou simplement quelques plaques françaises aperçues dans le quartier, en tout cas désinvesties, la cité du Peterbos a visiblement offert un boulevard au trafic organisé. Vous venez d'écouter le second épisode de la série « Le Peterbos, un paradis artificiel », un podcast RTBF réalisé par Tom Denis et Jérémy Van Belleghem. Dans le prochain épisode, je vous ferai rencontrer les grands frères du quartier, ces éducateurs qui donnent les bons outils aux jeunes pour ne pas tomber dans les travers de la rue, ceux sur qui l'on peut compter.